Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 14 juin. On est à peu près à l'heure. Ça sera une petite émission, courte mais intense. Et on commence par les titres. À l'international, on vous parlera rapidement du Pérou qui bascule à gauche. Et ensuite, on reviendra sur la politique en Israël.
Au national, on vous parlera du projet de loi qui est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale pour la procréation médicalement assistée pour toutes, ou presque.
Et au local, on parlera du mouvement d'occupation, notamment on fera un tour du côté du TNP avant d'aller sur le piquet de grève des grévistes d'arc-en-ciel à Perrache. Et tout de suite, on commence par les brèves.
Ou la citation de la semaine, sans rigoler.
Oui, voilà. Commençons par la citation de la semaine.
Alors, petite question. Qui a dit « Je dis effectivement que quand on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation à rentrer chez soi. » Vous pensez sans doute à quelques diaboliques cadres du Rassemblement National, mais non, c'est rien moins que le leader du PCF, Fabien Roussel, qui s'illustre par son adaptation à l'agenda sécuritaire du gouvernement. Alors que Macron veut augmenter la cadence des expulsions des exilés, Roussel, lui, essaye d'accompagner le mouvement et promeut la sortie expéditive des sans-papiers hors du territoire français. Et bien rompu à la langue de bois, le processus d'expulsion, par définition violent et souvent précédé d'un séjour en CRA, en centre de rétention, se transforme dans la bouche de Roussel en vocation à rentrer chez soi, un peu comme Ulysse qui revient au pays natal. Après avoir rejoint la manif des flics, ce sont maintenant les sans-papiers qui sont dans le viseur du communiste. Qui sait ? Peut-être que Roussel, comme Raphaël Enthoven, appellera bientôt à voter Marine Le Pen au second tour face à Méluche.
Et on passe avec cette... Après cette magnifique citation, on passe tout de suite au bref de la semaine.
Le Conseil d'État a, au national d'abord, le Conseil d'État a retoqué le schéma national du maintien de l'ordre de Darmanin, notamment en qualifiant les NAS, cette pratique abusive mais devenue malheureusement courante en manifestation, d'illégale, sauf dans des conditions précises. Après la remise en cause de l'article très critiqué numéro 24 de la loi sécurité globale, le Conseil d'État a retoqué 4 points donc de la Bible répressive dans la pratique abusive des NAS et aussi l'obligation pour les journalistes de s'éloigner en cas d'ordre de dispersion. Le Conseil d'État nous a radicalisés. 4 ans après que les 3 lycéens d'Épinay-sur-Seine aient porté plainte contre l'État suite à un contrôle au faciès, l'État a enfin été condamné à devoir verser 1500 euros à chacun des trois lycéens victimes d'un contrôle au faciès, donc 4 ans auparavant, à Gare du Nord, lors d'un voyage scolaire.
Et on vous en parle peu, et pourtant elles font palpiter notre petit cœur, et on n'en peut plus les attendre avec autant d'impatience. Je veux bien sûr parler des élections départementales. Dernier rebondissement, Michael Rossellini, retenez bien son nom, qui est candidat du Rassemblement National dans le canton de Beausoleil dans les Alpes-Maritimes, a été filmé en train d'arracher ses propres affiches. Alors était-ce pour faire croire que ses concurrents les arrachaient et qu'il était victime du système de la pensée unique ? L'histoire ne le dit pas et le candidat s'est en tout cas défendu en affirmant que son geste avait été mal interprété, sans donner plus d'explications. Ironie de l'histoire, ce sont les images de vidéosurveillance de la ville qui ont permis d'identifier le coupable. C'est ce qu'on appelle être pris à son propre piège.
Peut-être qu'il est somnambule, non ?
Et on continue les brèves avec une actu locale. À Lyon, ce week-end, 2 ouvertures de squats ont permis de mettre à l'abri des personnes que l'État refuse toujours d'héberger. À Villeurbanne, c'est donc au 324 cours Émile Zola. Il y a un barbecue solidaire qui se déroule en ce moment même. Les occupants invitent à venir leur donner des coups de main dans les jours qui viennent, donc n'hésitez pas à passer. Du côté de Hénon, c'est au 52 rue d'Enfer Rochereau que des mineurs isolés ont trouvé refuge. Pour rappel, la métropole a cessé la prise en charge qu'elle avait pourtant promis au début de son mandat. N'hésitez donc pas à passer sur ces deux lieux pour donner un coup de main ou apporter des dons.
Et on passe tout de suite.
International.
Et on part en Amérique du Sud où le Pérou est passé à gauche.
Oui, au Pérou, Pedro Castillo, un enseignant rural de gauche, a gagné les élections présidentielles contre Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président, et elle s'est tout de suite empressée de crier à quoi ? Aux fraudes électorales. Mais il faut croire que toute sa campagne de diabolisation de son adversaire, qu'elle situait quelque part entre la guérilla marxiste-léniniste du Sentier Lumineux dans les années 80-90 et d'autre part de l'épouvantail castrovachiste, tout ça n'a pas fonctionné. Cette élection arrive alors que le Pérou se trouve dans une crise politique, donc post-Fujimori. Alors pour rappel, Fujimori, le père, Alberto, c'était un dictateur qui a été l'un des principaux fers de lance du néolibéralisme latino-américain dans les années 90, avec une alchimie singulière de néolibéralisme économique, de conservatisme social, de coup d'état institutionnel et de répression massive. Il est en taule depuis 15 ans, pour crime contre l'humanité. Depuis donc, l'instabilité politique règne et a atteint son apogée dans les affaires de corruption, dites de lavajato, dans lesquelles les 4 derniers présidents étaient directement impliqués. L'instabilité était telle qu'en novembre dernier, 3 présidents se sont succédés en 5 jours, un record. De plus, après des guéguerres entre le Congrès et les gouvernements successifs, le Pérou a connu, à l'image aussi du Chili et de la Colombie, des manifestations massives courant 2020. Les résultats de ce week-end font donc apparaître surtout une fracture socio-spatiale assez nette. Là où les Andes et le sud du pays se sont prononcés en faveur de l'instit syndicaliste Castillo, de l'autre côté, Lima, la côte nord et une partie de la zone amazonienne se sont placés du côté de Fujimori, soutenu par les élites économiques, au nom du danger des rouges. Mais alors, que nous réserve vraiment la victoire de Castillo, membre du parti de gauche Pérou Libre ? Que les médias souvent comparent au bolivien Morales. Va-t-il réussir à rompre avec le modèle des gouvernements progressistes latino-américains des dernières décennies qui avaient en grande partie fondé leur politique économique de redistribution sur une politique extractiviste d'ampleur ? Alors d'une part, Castillo s'est engagé à rédiger une nouvelle constitution et de mettre en place une assemblée constituante. Il veut nationaliser aussi les ressources naturelles, gaz, or, argent, cuivre. Mais d'autre part, il tient des positions très problématiques et très réactionnaires sur plusieurs plans. Par exemple, il a une position anti-avortement. Il veut aussi expulser les réfugiés vénézuéliens hors du pays. Il envisage, ce qui n'est pas très rassurant, la création de milices armées contre la délinquance. Et j'en passe. Ça fait pas vraiment rêver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudra une pression forte dans la rue des secteurs féministes, écologistes et anticapitalistes pour rappeler à ce nouveau gouvernement qu'il est de gauche.
Et un changement de gouvernement autrement moins enthousiasmant du côté d'Israël.
Et oui, en effet, depuis l'après-midi d'hier, dimanche 13 juin, Benjamin Netanyahou n'est plus le Premier ministre d'Israël. Et jusqu'au dernier moment, il a pourtant tenté de retarder l'échéance. Il a par exemple dénoncé le futur gouvernement comme gauchiste et dangereux. Il a mis en garde contre la prochaine transformation d'Israël en une autre Corée du Nord ou un autre Iran. Et il est même allé jusqu'à prédire un nouvel holocauste. En vain, dimanche, la Knesset, donc le Parlement israélien, a voté par 60 voix contre 59 et une abstention, l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement mettant un terme à 15 ans de pouvoir de Netanyahou, dont 12 ininterrompus. Alors, comment ne pas se réjouir de la chute d'un chef de gouvernement poursuivi pour corruption, fraude, abus de confiance, et qui attribue son infortune judiciaire à l'État profond, aux élites, à la gauche, aux magistrats, à la presse ? D'un ministre pour qui les Arabes sont les ennemis historiques du peuple juif, et pour qui il n'est pas question que les Palestiniens aient un État. Mais faut-il se réjouir de l'arrivée de ce nouveau gouvernement, issu d'une coalition improbable de près de 8 partis politiques ? Un gouvernement qui en effet n'annonce aucune rupture historique, ni en matière économique et sociale, ni politique, ni surtout en ce qui concerne ce que certaines formations appellent pudiquement la question palestinienne, soit le processus de colonisation et d'extermination du peuple palestinien. Plusieurs des 8 formations qui composent la nouvelle coalition ont sur ce point des conceptions qui ressemblent fort à du Netanyahou sans Netanyahou. Hostile à la création d'un État palestinien, résolu à poursuivre, voire à développer la colonisation des territoires occupés, et favorable à l'annexion d'une large partie de la Cisjordanie. Lapid, le chef du parti de centre-droit Il y a un avenir, qui est majoritaire au Parlement, a notamment dû se résoudre à conclure un accord d'alternance avec le parti Yamina, un parti colonisateur et annexionniste, dont le leader, Bennett, exercera pendant 2 ans les fonctions de Premier ministre, alors que le Premier sera dans le même temps ministre des Affaires étrangères. Et les fonctions seront échangées dans 2 ans, en 2023. Alors, qui est Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre israélien ? Ancien commandant dans les forces spéciales, Bennett est entré en politique en 2016 au sein du Likoud, donc le parti de Netanyahou, après avoir fait fortune en vendant sa start-up spécialisée dans les logiciels de sécurité et de surveillance informatique. Très proche de Netanyahou au départ, il a été déçu de ne pas obtenir les portefeuilles ministériels qu'il briguait, et il s'est éloigné de son leader au point de fonder son propre parti en 2018 et de faire campagne, donc, lors de ses élections, contre lui. Porteur de la kippa tricotée de colons et un temps dirigeant du conseil de Yesha, l'organisation représentative des colonies, il entend défendre un sionisme religieux fondé sur le contrôle de la terre et proposait par exemple en 2012 l'annexion de 60% des territoires occupés. En juillet 2013, au cours d'une discussion au sein du gouvernement sur le sort à réserver aux prisonniers palestiniens, il avait suggéré de les tuer, rien que ça. À un officier présent qui s'étonnait de ce choix, il avait répondu « J'ai tué beaucoup d'Arabes et ça ne m'a pas posé de problème ». Avec ce nouveau gouvernement, les problèmes du peuple palestinien, eux, ne sont pas finis. Force à lui, Palestine vaincra.
Et on écoute tout de suite une petite musique.
Ça nous vient du Pérou. C'est la rappeuse Renata Flores Riveras avec son morceau « Tirejas ». Le temps de la trouver dans le bon ordre.
Pas kawanju manangi matapas atini churu aitari maita munani aparis pa ami tukuru na manangu ya ikunchu imas kaita hinas pandi ini kaparisani Neman tu tapika skype hawani atskita hinap tu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manani mata pasati ni chu ruai tari mai tamunani aparis pami tokoi runa mana uyarin kuchu ni maskaita hinas panini aparis akmi tokoi kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas ati ni chu ruai tari mai tamunani Aparis pa ami, tukuru na manang huyari kunchu Ni maskaita, hinas pa ni, ini ka paris kami Echa ka parita, sumakta takisa, chenatang huyari kaku Una kuna, yake iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manang ayin taros pa Yohan chik, huyokon chik, atiru askanita Waita talentis pa Thank you.
Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, Julio Sakasun.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous venez d'écouter Tijeras, une chanson de Renata Flores Riveras, une rappeuse péruvienne. On passe tout de suite à l'actualité.
National.
Et du coup, on va tout de suite parler de la PMA.
Oui, en effet, un texte qui est étudié en ce moment même à l'Assemblée nationale, un texte et des renoncements à l'appel, c'est le constat qu'ont fait cette semaine les militantes et les militants LGBTQI à l'occasion de l'examen donc, de cette loi dite de bioéthique, qui ouvre notamment la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Une loi qui devrait être adoptée d'ici la fin du mois de juin. Et comme l'affirmait avec force et colère Mimi, présidente de l'association de défense des personnes trans Acceptes, lors d'un rassemblement qui était justement organisé devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ce n'est pas parce que nous sommes nés trans qu'on n'a pas le droit d'avoir une famille, notre propre famille. C'est l'heure où l'État doit nous écouter. Aujourd'hui, on réclame des droits égaux, des droits fondamentaux. Avoir accès à la PMA n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Nous en avons marre de cette société raciste, grossophobe, putophobe et transphobe. Et si le texte va sans doute bel et bien établir l'accès à la PMA intégralement remboursée par la Sécurité sociale pour les couples de femmes lesbiennes et pour les femmes seules, mettant ainsi fin à une trop longue discrimination, les principales associations militantes autour de cette question insistent sur les trop nombreuses personnes qui restent en dehors du champ de cette révision ou qui font l'objet de nouvelles discriminations. La PMA facile d'accès et vraiment pour toutes n'est en effet pas encore pour demain. La procréation médicalement assistée reste tout d'abord interdite aux personnes transgenres qui sont souvent exclues d'une autre avancée majeure exclues d'une autre avancée majeure du texte, en l'occurrence l'autoconservation des gamètes, ovules ou spermatozoïdes, qui n'était jusque-là possible que si le risque d'infertilité était médicalement établi. Autre élément complètement absent de la loi, la technique dite de la ROPA, une technique d'aide médicale à la procréation qui permet pour un couple lesbien que l'embryon conçu avec l'ovocyte de l'une des deux femmes soit porté par sa conjointe. Ainsi, si la femme qui souhaite porter l'enfant peut mener à bien une grossesse, mais n'a pas la capacité de procréer avec ses propres gamètes, sa partenaire peut l'y aider. Le Parlement, en l'occurrence la droite et la République en marche, ont voté contre, entérinant ainsi une discrimination de plus fondée sur le sexe. Autre recul, la loi ouvre bien la PMA aux femmes seules, mais pas aux veuves, ces femmes en couple qui, si leur conjoint décédait en cours de route, devront donc renoncer à leur projet de maternité entamé. Le gouvernement affirme privilégier l'équilibre du texte. En réalité, c'est l'équilibre patriarcal de la société qui est défendu. Autre recul, l'appariement, une technique qui consiste à faire correspondre le plus possible les gamètes des donneurs avec les futurs parents, dans le but de faire ressembler au maximum l'enfant aux parents, du coup. Une pratique qui s'est imposée au fur et à mesure, au point de générer de vraies difficultés pour les couples racisés minoritaires qui se retrouvent privés de facto de PMA, faute de gamètes compatibles disponibles. Enfin, les parlementaires ont refusé de copier le modèle en vigueur de reconnaissance de la parenté pour les couples hétérosexuels, passé par la PMA, basé sur la présomption automatique de parenté, pour lui préférer une autre procédure spécifique, puisque les couples de femmes devront passer par une reconnaissance anticipée de l'enfant devant notaire, et cette mention sera inscrite sur l'acte de naissance de l'enfant. Ainsi, si ce texte de loi comporte bien des avancées réelles obtenues grâce à la mobilisation des militantes et militants, associations et collectifs LGBTQI, il porte toujours la marque du patriarcat, du racisme et de la transphobie. Bref, le combat continue.
Et on fait une deuxième pause musicale avec la rappeuse Lilis et son morceau Terminus.
Comme famille qu'à la braise, je reste d'humeur vengeresse. Suffit de souffler sur les braises, du reste d'un feu de détresse. Le soir, rendez-vous avec mes tourments. Quand on me parle, je vois qu'on ment, mais c'est trop tard. Le chat qui ment et déjà qui part. Et maintenant, je vois les trimards, les jambes qui tremblent, pris en silence. J'entends les chiens qui aboient, qui reniflent. Un gun dans les mains, je sais pas où je tire. Pas résigné, j'ai ma propre justice. Depuis petit, j'ai chargé le fusil. Bats les pattes, je prends pas les balles. Fallait pas rater la cible à l'état. Ça s'arrête là, tu parleras à ma messagerie. J'suis posé avec les loups sur les toits de ma ville. Sache que dans mes mains j'ai le pouvoir de t'ôter la vie.
J'suis posé avec les loups sur le toit de ma ville. Sache que dans les mains j'ai le pouvoir de t'ôter la vie. J'côtoie les chats noirs, c'est des sorcières qui me veulent du bien. En l'être humain j'ai peu d'espoir, la renée rose connaît l'histoire. Trop de défaites, pas de victoire. J'ai mélangé, mélangé, mélangé. Mélangé passion et danger. J'ai mélangé, mélangé, mélangé. Mélangé passion et danger. Depuis que ma mère a perdu les os, je ressens la tristesse dans mes os. C'est la spécialité de la maison. Consoler à l'ivresse assez tôt. Depuis que ma mère a perdu les os, je ressens la tristesse dans mes os. C'est la spécialité de la maison. Consoler à l'ivresse assez tôt. Cœur est noir, blanche comme la lune. C'est pas la peur qui m'a fait pâlir. Ça compte les morts sur toutes les unes. Et nous on fait semblant de pâlir. À tout moment tu peux partir, donc je te demanderai pas l'heure. J'ai trop pleuré, mes joues arrivent, ne me parlez plus de malheur. Voyage dans ma démence, de janvier à décembre. Voyage dans ma démence, j'invite tout le monde à se faire descendre. Voyage dans ma démence, de janvier à décembre. Voyage dans ma démence, j'invite tout le monde à se faire descendre. Depuis que ma mère a perdu les os, je ressens la tristesse dans mes os. C'est la spécialité de la maison, consoler à l'ivresse assez tôt. Depuis que ma mère a perdu les os, je ressens la tristesse dans mes os. C'est la spécialité de la maison, consoler à l'ivresse assez tôt. Depuis que ma mère a perdu les os, je ressens la tristesse dans mes os. C'est la spécialité de la maison, consoler à l'ivresse assez tôt. J'ai mélangé, mélangé, mélangé. Mélangé passion et danger. J'ai mélangé, mélangé, mélangé. Mélangé passion et danger.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 14 juin et on vient d'écouter Lilith et son morceau Terminus, ce qui ne veut pas dire que l'émission est terminée.
Elle n'est pas... Et on va d'ailleurs vous donner tout de suite des nouvelles du TNP et du mouvement d'occupation des lieux culturels en France.
Tout à fait, depuis plus de 3 mois, de nombreux lieux culturels sont occupés partout en France. On vous en a déjà beaucoup parlé ici, contre la réforme de l'assurance chômage. Et si la réouverture a provoqué de nombreuses expulsions de ces lieux, certains ont choisi de poursuivre les occupations. À ce jour, encore une quinzaine de lieux sont toujours occupés. La mobilisation continue avec notamment une manif ce jeudi à Lyon. Toujours des actions partout en France. Alors pour petit rappel, le nouveau mode de calcul entraînera une baisse de l'allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour environ 41% des allocataires. 63% des allocataires percevront une indemnisation moins élevée. Et donc l'ensemble des syndicats, sauf la CFTC, est opposé à cette réforme. De nombreux recours devant le Conseil d'État ont été déposés. Ils ont été examinés le 10 juin. D'après les retours de cette audience, le principal représentant de l'exécutif s'est trouvé très en difficulté à de nombreuses reprises pour expliquer la réforme. La magistrate, semble-t-il un peu dubitative, a demandé des informations complémentaires au ministère du Travail qui doivent être fournies le 15 juin, demain donc. La bataille est loin d'être perdue sur tous les plans et surtout pas localement, ce qui nous fait une magnifique transition vers les infos.
Local.
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 Vers donc les infos locales, puisque oui, je le rappelle, le TNP à Villeurbanne est toujours occupé et a même fêté ses 3 mois d'occupation il y a 2 jours. On écoute donc tout de suite le communiqué des occupantes et occupants.
Nous, artistes.
Précaires.
Étudiantes et étudiants.
Techniciennes et techniciens du spectacle.
Chômeuses et chômeurs.
Citoyennes et citoyens.
Occupons le Théâtre National Populaire de Villeurbanne depuis le 12 mars au sein du mouvement Occupons Partout, qui a lieu dans une centaine de lieux culturels en France.
La semi-ouverture des lieux culturels et festivals le 19 mai ne signifie pas une reprise de l'activité du secteur culturel dans son ensemble.
Ce n'est qu'une illusion de la réouverture.
Beaucoup de festivals sont annulés, des programmations de lieux supprimées. Nous revendiquons
l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui est totalement inégalitaire, qui prévoit de durcir l'accès aux droits de toutes et tous, diminuera le montant des allocations d'un tiers, exclura donc de cette protection celles et ceux qui sont déjà en difficulté.
la prolongation des droits au chômage jusqu'à un an après la reprise totale des activités de toutes les intermittentes et de tous les intermittents du spectacle.
Mais également de l'emploi, extra de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, guides conférenciers et conférencières, guides touristiques, saisonnières et saisonniers, artistes, auteurs, autrices, travailleuses et travailleurs forcés à l'auto-entrepreneuriat, etc., qui sont encore aujourd'hui totalement oubliés des mesures de protection gouvernementale.
Un plan massif de soutien à l'emploi jusqu'à la reprise de l'activité à son niveau d'avant-crise en impliquant les jeunes. Nous exigeons que ces fonds de l'État servent à la création et au maintien d'emplois et ne servent pas de dividendes reversés aux actionnaires, comme c'est encore trop souvent le cas.
Une réelle réflexion sur les conditions socio-économiques des étudiantes et étudiants, des jeunes travailleuses et travailleurs, ainsi que celles et ceux sans emploi. Une jeunesse qui est, depuis plus d'un an, oubliée, sacrifiée.
C'est pourquoi, malgré la réouverture, nous continuons à occuper.
Nous continuons car nous ne sommes pas entendus.
Nous continuons et nous continuerons.
Nous continuerons de plus en plus fort.
Nous continuerons jusqu'à satisfaction complète de nos revendications.
Car ce que nous le revendiquons pour toutes et tous.
Les occupants continuent donc toujours de se mobiliser. Ils mobilisent chaque jour devant les différentes représentations culturelles, musicales, théâtrales, qui ont lieu depuis la réouverture. Des actions sont encore prévues dans les jours qui viennent, mais puisqu'il y a un mais, une procédure d'expulsion vient d'être lancée à la demande du directeur du TNP et menace donc l'occupation. Pardon. C'est pourquoi les occupants appellent à les rejoindre en Assemblée Générale ce mercredi à 12h30 au TNP afin d'envisager la suite et notamment d'organiser une grosse action qui aura lieu dans les jours qui viennent. On vous invite donc à vous y rendre nombreux et nombreux afin de s'organiser contre la casse de nos droits sociaux et évidemment à rejoindre la manifestation de jeudi qui partira à 11h30 de la gare des Brotteaux.
Et on continue en ce qui concerne les luttes locales pour vous parler de la grève des travailleuses du nettoyage à Perrache.
Et oui, depuis lundi dernier, les salariés de la société Arc-en-Ciel sont en grève. Alors Arc-en-Ciel, c'est un sous-traitant de la métropole qui est chargé du nettoyage de la gare de Perrache. Les grévistes, harcelés par un employé de la métropole qui est sur le site de Perrache, demandent son retrait du site et la fin immédiate des pratiques d'ingérence de la métropole. L'installation pérenne de tous les équipements préconisés par l'inspection et la médecine du travail, l'accès au parking des personnels, le respect des grilles de qualification conventionnelle, une prime panier repas pour toutes et un 13e mois intégral. On écoute tout de suite leurs témoignages concernant le harcèlement dont ils sont victimes au quotidien sur le site de Perrache. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait ici ?
Il y a grève contre l'harcèlement, abus d'autorité. Il y a beaucoup de pression sur nous. C'est pour ça qu'on est marre et on fait ce grève-là.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça se traduit, ce harcèlement ?
Il m'insulte, il tourne derrière nous. Il fait beaucoup de trucs. Hein.
Harcèlement, je dirais on travaille chez lui. Tout le temps, l'équipe du soir, on travaille comme des fous, on nettoie. À chaque fois, il y a des réclamations. Même l'équipe de matin qui travaille, il y a des réclamations partout. À chaque fois, il y a des réclamations. Il y a des escaliers qui sont mal faits. Il y a le maïpiton qui est mal fait. Les galeries sont mal faites. Mais franchement, on travaille comme des malades. On est fatigué pour de vrai.
C'est pas avec un salarié ou deux ou trois. C'est avec tous les salariés.
Tous les salariés, ils sont pas contents.
Franchement, il y a
des salariés qui ont démissionné. Hein. Mais normalement, si vous êtes un client, il y a une boîte qu'on travaille avec elle, Arc-en-Ciel. Vous contactez la boîte. C'est pas vous passez chez les salariés, prenez les salariés, il y a un chef de site, vous parlez avec le chef de site, et le chef de site qui va parler avec les salariés. C'est ça le problème. Mais lui, il vient vers vous, ça c'est mal fait, prends pas des cafés, il faut pas parler, fume pas de cigarettes, prends pas ta pause. Il y a des gens qui sont à la douche, ils rentrent dans le vestiaire. Vas-y, il faut faire arrêter la douche, mais pour de vrai. Hein.
Avant, j'arrive avec la voiture. Il m'interdit la voiture. Il m'a dit qu'il ne faut pas stationner ici. Par contre, il y a les sécurités, les voitures de sécurité stationnées ici. Et nous, il m'interdit. Donc, j'arrive avec le bus. En plus, je travaille tôt. 5 heures du matin, donc c'est difficile. Même dans les sanitaires, on ne peut pas s'asseoir. Imaginez, moi, 10 heures dimanche, du 6 heures jusqu'à 17 heures, sans s'asseoir. Oui, il m'a envoyé un jour un avertissement. Ce n'est pas lui, en fait. Un jour, il arrive, il m'a trouvé s'asseoir devant les toilettes sanitaires. Il a appelé le chef agent de maîtrise, M. Barchouchi. Ils ont dit, avec sa collègue, il s'assoit. Il m'a envoyé un avertissement pour ça.
Et du coup, là, vous attendez quoi de... Il y a une réunion en ce moment, vous attendez quoi de la réunion?
La réponse, s'ils ont dit, la direction du Grand Lyon, il n'y a pas d'harcèlement, comme hier, ils ont dit rien, ils n'ont fait rien, on va aller chez le palais du Grand Lyon, la grande direction, voilà, dans notre local. On ne va pas lâcher, de toute façon.
Et depuis ces témoignages qui ont été enregistrés mardi dernier, et malgré la détermination des grévistes, la métropole fait la sourde oreille. Les tentatives de négociation ont jusqu'à présent tout échoué. Encore une fois, la sous-traitance montre son insupportable visage. Elle permet aux donneurs d'ordre, en l'occurrence la métropole, de cautionner des conditions de travail dégradantes, tout en se lavant les mains de leurs responsabilités. Vous pouvez soutenir les grévistes sur leur caisse de grève en ligne, dont on mettra le lien sur le blog du Canyon Info, ou tout simplement en passant les voir sur leur piquet de grève.
Et avant d'arriver au terminus de cette émission, on voulait vous faire un petit retour du Parleur Sauvage qui a été organisé mercredi dernier devant le centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry.
Oui, mercredi dernier, une vingtaine de personnes se sont rendues au CRA, au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry, pour soutenir les prisonniers et prisonnières qui dénoncent toujours les conditions d'incarcération, les violences policières, les violences médicales qui ne cessent. Et surtout, depuis quelques jours, ils témoignent de réapparition de cas Covid qui les inquiètent beaucoup. Donc plusieurs personnes sont en isolement, c'est-à-dire ils sont mis de côté dans un bâtiment à part. Et ne serait-ce que hier, un prisonnier a même appelé les pompiers pour problèmes respiratoires. Le médecin a la bonne idée de lui donner des doliprane pour seule réponse. Et donc pendant 20 minutes, 30 minutes, les personnes ont fait du bruit pendant que les prisonniers et prisonnières étaient en promenade. Donc ce sont succédé des moments d'échange, des slogans de soutien pour un moment combatif et un peu revendicatif et un peu plus joyeux. Vous retrouverez aussi tous leurs témoignages sur le Facebook Lyon Anti-CRA et sur le blog Crame ton CRA.
Et en parlant de la mobilisation contre les centres de rétention administrative, à Paris, il y a une manifestation qui est organisée ce samedi 19 juin devant le CRA du Ménil-Amelot pour protester contre l'agrandissement de ce centre de rétention. Et voilà, et là vous pourrez trouver les infos sur le site de Abat les CRA.
Et du coup, on passe à l'agenda local. Donc pour les dates de cette semaine, mercredi à 12h30, rendez-vous au TNP, donc métro gratte-ciel, pour une AG exceptionnelle. Vous pouvez rentrer par l'entrée qui se situe sur la droite du bâtiment. Il y a pas mal d'actions qui sont à prévoir dans les jours et semaines qui viennent. Jeudi à 11h30, toujours contre la réforme de l'assurance chômage, manif au départ des Brotteaux. À 16h le même jour, vous pouvez rencontrer l'auto-école autogérée. Pour connaître le lieu, il faut envoyer un petit mail à zerodeconduite@riseup.net. Et vendredi à 18h, le cirque appelle à un rassemblement pour un changement de politique sur les drogues. Ça se passe parc des Berges du Sud. Voilà pour l'agenda de la semaine.
Et nous, on vous dit...
À lundi prochain.
Toujours le Canyon Info du lundi soir. On a oublié dans notre petit agenda un événement sportif et populaire.
L'événement le plus important de la semaine qui aura lieu demain à l'Illégalité, c'est la projection du match France-Allemagne à 21h.
Et on vous dit quand même à lundi prochain.